Merci beaucoup, Isabelle, pour ce temps de louange, de prière, ce temps très profond. Ce verset, arrêtez et sachez que je suis Dieu, dont nous avons beaucoup parlé ces derniers temps. Je me souviens qu'il y a 2 ans à peu près, au début du confinement, on évoquait souvent ce verset, parce qu'on a tous eu un petit coup d'arrêt dans notre rythme habituel. Mais quelque part, c'est quelque chose d'encore plus profond. Arrêtez peut-être de vouloir vous en sortir par vous-même. Arrêtez de compter sur votre propre force pour pouvoir entrer dans une dimension encore supérieure de la confiance en Dieu. Ça fait bientôt 30 ans que j'appartiens au Seigneur, que Jésus est mon berger, et j'apprends toujours et encore la foi. C'est tout simple, c'est un tout petit mot, même en 3 lettres, la foi, la confiance. J'ai besoin, je pense, tous les jours d'apprendre la foi. Très récemment, je vais vous donner un petit mot de témoignage personnel. Plusieurs d'entre vous, vous saviez que nous avions le projet avec Noémie, mon épouse et donc toute la famille, de devenir famille d'accueil. On l'avait partagé voilà, à quelques-uns déjà d'entre vous. Et on a fait donc 1 année à peu près de démarches où on s'est préparé, on a rempli des lettres de motivation, des dossiers, etc. On a eu au total 7 entretiens dans l'ensemble du parcours depuis octobre dernier pour finalement recevoir tout début septembre, le 1er septembre, une lettre par courrier nous informant que notre candidature, la candidature de Noémie pour être plus précis, n'était pas retenue pour motif que notre profil ne correspondait pas aux nécessités, je cite, aux nécessités actuelles de leur service. Plusieurs mois de démarche, 11 mois de démarche, nous avions préparé les enfants, nous avions fait des aménagements dans le logement, etc., pour aboutir à tout cela, à cette réponse négative. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Voilà un des coups d'arrêt que nous avons vécu, beaucoup plus dramatique, effectivement. Les très mauvaises nouvelles de la santé de Lise qui nous sont parvenues début août ont aussi été un changement radical dans la vie de toute la famille Lutz. Et puis voilà, je suis certain que dans votre vie, à un moment donné ou à un autre, vous avez vécu comme cela, un coup d'arrêt. Vous vous projetiez dans quelque chose et cette chose n'est pas arrivée. Je vous invite à la lecture de la parole de Dieu. Dans l'épître de Jacques, chapitre 4, on va lire à partir du verset 13 jusqu'au chapitre 5, verset 6, et vous verrez que cette idée, finalement, de s'arrêter pour faire confiance à Dieu, pour reconnaître qu'il est souverain, nous avons lu qu'il domine la terre et les nations, est présente aussi dans ce texte d'une autre façon. Maintenant, faites attention, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous resterons là-bas 1 année, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent. » Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivrez demain. Oui, vous êtes comme un petit nuage qui est là quelques instants et qu'on ne voit plus ensuite. Au contraire, vous devez dire « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou bien cela. » Mais non. Vous vous vantez avec des paroles pleines d'orgueil. Se vanter de cette façon, c'est mauvais. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Maintenant, faites attention, vous les riches. Pleurez, criez à cause des malheurs qui vont venir sur vous. Votre richesse est pourrie. Les vers mangent vos vêtements. Votre or et votre argent rouillent, et leur rouille va vous accuser. Elle va dévorer votre corps comme un feu. Le monde va bientôt finir. Pourtant, vous conservez des richesses en réserve, et même vous gardez pour vous le salaire des ouvriers qui font la récolte dans vos champs. Alors ils se plaignent, et les cris de ces ouvriers arrivent aux oreilles de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Sur la terre, vous avez vécu au milieu des richesses, vous avez fait ce qui vous plaisait, vous avez bien mangé pendant que des gens mouraient, vous avez condamné les innocents, et vous les avez tués, ils ne vous ont pas résisté. Sur Internet, dans les magazines, à la télévision ou à la radio, partout, on nous donne des conseils pour gérer notre vie. Vous avez peut-être déjà lu des titres du style « Les 10 conseils pour prendre sa vie en main », « Les 7 astuces pour gérer ses économies », « Les 4 principes pour booster sa carrière professionnelle », etc. On nous propose partout des coachs pour notre développement personnel, des offres incontournables pour une assurance vie, des manuels pratiques pour réussir sa vie. En fait, nous apprendre à gérer notre vie est aujourd'hui un business qui rapporte. Alors tout cela, bien sûr, n'existait pas au temps de l'Épître Jacques. Mais n'est-ce pas un peu les mêmes questions, fondamentalement, qui nous sont posées ici dans ce texte ? Comment gérer sa vie ? Quel projet bâtir ? Quelles assurances se donner ? Et Jacques y répond, comme à son habitude, de façon directe. On pourrait dire que dans ce texte, il pousse un double coup de gueule. Les deux paragraphes qui sont introduits par la même formule d'interpellation qu'on pourrait traduire « à vous maintenant ». Voilà, maintenant, faites attention, « à vous maintenant ». Jacques vise en fait spécialement deux types de comportements qu'il veut condamner ici avec vigueur et qui devaient être présents parmi ses lecteurs. Il dénonce en fait deux sécurités illusoires. Dans le premier paragraphe, celle des projets, trop bien ficelés. Et dans le deuxième paragraphe, celle des richesses amassées. L'idée commune à ce passage est la suivante. Nos projets et nos richesses sont des illusions quand ils deviennent notre sécurité. C'est même une manifestation d'orgueil, soit parce qu'on pense être seul maître de son destin, soit parce qu'on pense pouvoir se mettre à l'abri grâce à ses biens matériels. Et Jacques, comme il aime le faire avec ses lecteurs, les reprend avec beaucoup d'amour, mais beaucoup de fermeté. Ils remettent en place ceux qui tiennent de tels raisonnements. Vous pensez être maître de votre destin ? Eh bien, aussi riche et ambitieux que vous soyez, vous n'êtes guère plus à l'échelle de l'histoire qu'un petit nuage qui s'évapore. Vous pensez vous garantir un avenir radieux par les richesses que vous amassez ? Vos richesses sont éphémères, elles pourrissent et elles rouillent. Le monde va disparaître et pourtant vous amassez les richesses alors que vous ne les emporterez pas dans la tombe. Plus grave encore, ces sécurités, qui sont en fait des sécurités illusoires, leur font oublier les autres et enferment dans l'égoïsme. Les ouvriers, nous est-il dit, ne sont pas payés, des innocents sont condamnés et meurent. Peut-être on se dit, ouais, mais on n'est pas dans cette situation. Nous, aujourd'hui, voilà, si on fait travailler quelqu'un pour nous, on va le payer au juste prix. Mais ce n'est pas si sûr que ça, parce que quand on achète des choses, est-ce que ceux qui l'ont fabriqué ont été payés à leur juste prix ? Les ouvriers ne sont pas payés. En tout cas, la leçon est celle-ci. Quand le but de sa vie est de se construire un petit monde sécurisé, on va s'enfermer dans son égoïsme. L'avertissement est valable pour chacun. S'ouvrir à l'autre, l'accueillir, l'aimer tout simplement comme nous y invite le Seigneur, ça peut mettre en danger notre confort et notre sécurité. Quand ma sécurité est ma préoccupation première, je ne suis pas sûr que l'amour du prochain ait encore beaucoup de place. Qu'il y ait encore beaucoup de place dans ma vie pour aimer mon prochain. Ce qui est vrai d'ailleurs à l'échelle individuelle l'est aussi à l'échelle collective, à l'échelle de tout un peuple ou d'un pays. Quand le souci premier est la sécurité, alors les peurs de l'autre grandissent, on est dans le repli, on construit des barrières et des murs, on préfère la méfiance et la suspicion à l'accueil et l'hospitalité. Toute ressemblance avec ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays européens est privilégiée n'est pas fortuite. Dans une société, quand la sécurité est érigée en valeur suprême, je ne suis pas sûr que la liberté, l'égalité et la fraternité, qui nous sont chères, tiennent longtemps. Ce sont des sécurités en fait illusoires. Et face à ces sécurités illusoires, et notamment celles de nos projets aussi, Jacques fait une préconisation, il dit « Vous devez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou bien cela. » Nous avons là la notion de la souveraineté de Dieu, si le Seigneur le veut. Cette notion de souveraineté de Dieu, elle est effectivement liée à tout ce qu'on a chanté, la victoire, la force, la toute-puissance de Dieu, mais elle est aussi liée à la confiance en Dieu. Si le Seigneur le veut, nous ferons alors ceci ou bien cela. Ce verset biblique, vous le savez, a donné naissance à une formule utilisée parfois un peu à la tout-va chez les chrétiens, c'est cette fameuse expression « Dieu voulant ». Et des fois, on l'abrège même DV, hein, dans certains SMS ou messages, pour le signifier. Cette expression est bien connue dans nos milieux. J'ai rien contre l'usage de cette formule, mais je me méfie de son usage systématique, parce qu'une formule, à partir du moment où on la répète beaucoup, eh bien on oublie la profondeur de son sens. Le Dieu voulant est quelquefois devenu un peu le Inch'Allah évangélique. La formule a néanmoins un sens, si Dieu le veut, si vraiment je suis conscient d'être dans la dépendance de Dieu. Jacques veut nous situer à notre juste place ici-bas, que nous soyons lucides quant à notre condition humaine. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Même si nous sommes responsables de nos choix et de nos projets. Alors, bien gérer sa vie devant Dieu, c'est effectivement soumettre tous nos projets à sa volonté. Et c'est cela que signifie cette formule. Si Dieu le veut, ça veut dire j'accepte de soumettre mes projets au plan souverain de Dieu. Non pas qu'on s'attende à ce que la feuille du plan de Dieu nous tombe dans les mains et que nous n'ayons plus qu'à la suivre sans réfléchir. Mais dans tout ce que nous faisons, dans tous nos projets, restons attentifs à la voix de Dieu. Restons sensibles à sa main qui pourrait nous conduire ailleurs que ce que nous avions prévu. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou bien cela. Même la vie dépend de la volonté du Seigneur. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Cela nous conduit encore à aller un peu plus loin dans notre réflexion. Si nous ne sommes pas maîtres de notre destin et que Dieu, lui, est souverain, alors nous devons lui laisser de la place, dans la gestion de notre vie, et même laisser de la place dans la gestion de notre vie pour des imprévus. Peut-être que cela éclaire un peu l'usage que Jacques fait de cette formule « Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, cette phrase est dite aussi dans un contexte bien précis, c'est notre texte là. Peut-être que Jacques veut simplement accentuer l'importance de ses propos, de ce qu'il dit, mais on peut y faire un lien plus étroit avec ce qu'il dit juste avant, comme une invitation à saisir toutes les occasions de faire le bien quand elles se présentent, y compris quand ces occasions-là n'entrent pas dans les projets que nous avions prévus. Combien de fois n'avons-nous pas fait le bien que nous pouvions faire parce que nous avions d'autres projets en tête ? Vous voyez, des fois la raison pour laquelle nous ne faisons pas le bien qui se présente à nous, c'est parce que nous mettons une priorité sur les projets que nous avions en tête. et ses projets étaient-ils soumis à Dieu ? On ne peut pas planifier à l'avance les occasions que nous aurons de faire le bien. Dire « demain nous ferons ceci ou cela » de façon absolue, c'est s'interdire de faire autre chose si les circonstances le demandent. Des projets trop bien ficelés, qui ne laissent aucune place à l'improvisation et l'adaptation, peuvent empêcher de voir les occasions de faire le bien qui se présentent. Laissons de la place aussi à l'imprévu, si c'est possible, dans notre vie. Ne se préoccuper que de sa propre sécurité nous empêche de voir les occasions que Dieu met sur notre route. Notre imprévu est peut-être le prévu de Dieu. Ce que nous n'avions pas prévu est peut-être ce que Dieu avait lui prévu. Et on risque de passer à côté parce que ce n'était pas dans notre projet. Parce que ça nous détourne de notre feuille de route, ou parce que ça met en péril ce que nous pensions construire pour notre avenir. Gérer sa vie est un vrai défi, et je ne suis pas sûr que les multiples offres, conseils et astuces qu'on nous propose soient toujours de bons conseils. L'erreur est peut-être de croire que Dieu ne serait qu'un spectateur de notre vie, et que c'est à nous de tout planifier et de tout assurer. En réalité, ce que sous-entend Jacques, c'est qu'on ne peut pas gérer correctement sa vie sans laisser Dieu en prendre les commandes. Ça ne nous rend pas à notre tour spectateurs de notre propre vie, pour autant. Nous en restons les acteurs, mais aux côtés de Dieu et dans la soumission à sa volonté et sa souveraineté. Il pourrait bien, notre Dieu, nous emmener parfois sur des chemins que nous n'avions pas prévus. Sommes-nous prêts ? Que notre Dieu nous fasse connaître ses voies et nous enseigne ses sentiers. Amen.